France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission scientifique des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, pour ce rendez-vous avec votre intuition géographique, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. Alors, vous en avez sans doute entendu parler, peut-être l'avez-vous déjà oublié, mais la pire sécheresse depuis 50 ans en Éthiopie fait, depuis quelques mois, ressurgir le spectre de la famine en Afrique de l'Est. Il se trouve que cette semaine, la FAO, l'Organisation des États-Unis pour l'alimentation et l'agriculture, tient depuis lundi donc sa 29e conférence régionale africaine. Et nous avons donc choisi cette actualité qui n'est pas très chaude, dont on ne parle pas beaucoup dans les médias en ce moment, pour évoquer sur Planète Terre le sujet lancinant de la faim dans le monde. Cette double actualité africaine nous invite à rappeler une fois de plus ce paradoxe. La production agricole n'a jamais été aussi abondante dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, dans le même temps, malnutrition et sous-nutrition touchent encore 800 millions de personnes. Alors, où en est la faim dans le monde aujourd'hui? C'est le sujet de Planète Terre cette semaine et on regrette d'avoir encore à poser la question. Mais il le faut, car c'est encore et toujours un des enjeux globaux les plus cruciaux de notre Terre et de notre humanité. Mes deux invités, Bruno Parmentier et François Collard-Dutilleux, vont non seulement partager avec nous leurs diagnostics et leurs réponses, mais aussi partager leur conviction que la faim, loin d'être une fatalité climatique, naturelle ou démographique, peut être vaincue. Bonjour à tous deux, Bruno Parmentier, François Collard-Dutilleux.
Bonjour.
Bonjour.
Bruno Parmentier, on vous retrouve avec plaisir sur Planète Terre, mais vous êtes l'un et l'autre, connu de tous les auditeurs de France Culture. Bruno Parmentier, vous êtes ingénieur et économiste, consultant sur les problèmes agricoles et alimentaires, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, d'où vous venez aujourd'hui en TGV, merci beaucoup. Vous avez même rencontré un chevreuil sur la voie, me disiez-vous, avant que l'émission ne commence. Et vous êtes en particulier auteur de deux livres, Nourrir l'humanité et Fin zéro, tous deux parus aux éditions de La Découverte. Et vous animez un blog, le blog nourrir-manger.fr. François Collard-Dutilleul, pour votre part, vous êtes aussi venu en TGV, mais de Nantes. Et merci d'être là. Donc, vous êtes professeur de droit à l'Université de Nantes, spécialiste du droit à la sécurité alimentaire et directeur d'un programme de recherche très intéressant qui a mobilisé plus de 400 chercheurs, le programme LASCO sur la sécurité alimentaire dans le monde. Et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer peut-être par le début, c'est-à-dire une définition ou quelques définitions. Quelle situation désigne cette expression de faim? Quand on dit qu'une population ou des individus ont faim, qu'est-ce que cela veut dire précisément, Bruno Parmentier?
Alors, il n'y a pas d'enquêteur qui se balade sur la planète pour recenser la faim. En fait, on travaille par statistique. Et les statistiques, ça consiste à dire, grosso modo, juste pour les fonctions vitales, c'est-à-dire entretenir le cœur, le poumon, se chauffer le corps, etc., le cerveau, faut à peu près 1800 calories par femme et 2100 par homme. Puis ensuite, plus, évidemment, si on est actif, et beaucoup plus si on est très actif. Et donc, on prend des statistiques de calories et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas régulièrement à avoir au moins le nombre de calories qui leur permet de maintenir leur fonction vitale. Donc, ils sont en danger réellement de santé. Ça, c'est à ne pas confondre avec les gens qui, eux, mangent suffisamment de calories, mais ils ne mangent qu'une seule chose. Par exemple, que du riz ou que du manioc. Donc, leur santé à eux est aussi gravement détériorée, non pas parce qu'ils manquent de calories, mais parce qu'il manque de diversité, il manque de vitamines, etc., etc.
Il y a deux termes pour désigner ces deux situations.
Oui, la sous-nutrition et la malnutrition, on pourrait dire. Alors, il y a à peu près 800 millions de gens qui se couchent le soir en ayant faim. 800 millions, c'est énorme. C'est autant qu'en l'an 2000. C'est autant qu'en 1950.
On est combien? On est 7 milliards.
On est 7 milliards 3.
C'est ça.
Et c'est autant qu'en l'an 1900. Et donc, quelque part, il y a une espèce de loi incroyable. Quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim.
Mais le fait, donc, que la proportion de gens qui ont faim est considérablement baissée depuis 1900, voilà. Est-ce que c'est une manière de masquer le problème ou est-ce que ça veut dire que ça évolue?
Alors, effectivement, ça évolue, parce que en 1900, nous n'étions qu'un 1,8 milliard. Aujourd'hui, 7,3 milliards. Il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Ça veut dire qu'on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. Donc d'un côté, l'agriculture mondiale a fait des progrès absolument considérables. Mais d'un autre côté, on se dit, enfin, c'est quand même pas possible avec les moyens qu'on a. Et puis surtout, en 1900, on n'était pas encore très bon en agriculture, on n'était pas encore très bon en transports internationaux. Donc il suffisait d'un incident climatique pour qu'on ait vraiment faim quelque part. Mais maintenant, on est bon en agriculture, on est bon en transport. Autrement dit, il n'y a plus aucune fatalité à la faim. La faim est une construction de l'homme. Par exemple, regardez, on dit Haïti, c'est normal, il y a eu un tremblement de terre, les gens ont faim. Mais enfin, c'était un tremblement de terre de classe 7, sans tsunami.
En 2010, si je me souviens bien.
2010. 2 ans après, au Japon, il y a eu un tremblement de terre de classe 9 avec tsunami. Personne ne se demande si on a faim au Japon. Je veux dire, si on a faim après un tremblement de terre pendant un mois ou deux, c'est réglo. C'est pas de chance. Mais 6 mois après, c'est à cause de l'homme. Et donc, on peut quand même se dire très tranquillement, les 800 millions de gens qui avaient faim en 1900, ben, c'était l'ignorance, beaucoup. Les 800 millions de gens qui ont faim aujourd'hui, c'est l'homme. C'est l'égoïsme, la cupidité, l'indifférence de l'homme.
La mauvaise gestion.
Alors d'un côté, c'est positif. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Si on a vraiment envie de lutter contre la faim, on peut.
Alors on va y venir. Restons-en donc toujours à ce niveau ou à cette échelle très globale. François Collard-Dutilleux, est-ce que vous diriez, je rappelle, vous êtes juriste, professeur de droit, et vous vous intéressez en particulier, on va dire, à la manière dont on pourrait faire rentrer dans le droit la sécurité alimentaire. Est-ce que, à l'échelle de l'humanité, on peut dire ou on devrait dire que l'alimentation, c'est un droit de l'homme?
Mais l'alimentation, c'est bien sûr un droit de l'homme.
Parce que c'est écrit nulle part, sauf erreur de ma part. C'est pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, vaguement dans l'article 25 ou 26.
Maintenant, on voit apparaître le droit à l'alimentation dans le protocole international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a des textes dans lesquels, et la FAO a beaucoup aussi avancé les choses, il y a des textes sur le droit à l'alimentation, le droit à l'eau. Le problème, c'est que, d'abord, comme le disait Bruno Parmentier, c'est très difficile de définir la famine. C'est très difficile parce que on pourrait aussi dire, indépendamment des chiffres, c'est un peu cruel de calculer ou de déterminer la famine en fonction des calories. Parce que être en situation de famine, c'est ne pas pouvoir avoir une vie active, saine et autonome. Voilà. Se coucher en ayant faim, c'est pas simplement avoir l'estomac vide. Parce que quand on raisonne comme ça, ça signifie alors qu'il suffit pour régler le problème de remplir les estomacs. Alors, on est loin du compte. Et sur le chiffre, sur les 800 millions qui sont constants, c'est vrai, il faut quand même regarder un peu le détail. Pour observer que il y a, depuis 92 à peu près jusqu'à aujourd'hui, il y a 50 millions de plus d'Africains qui sont en situation de famine et beaucoup moins en Chine. C'est normal, c'est la moindre des choses. La Chine, c'est aujourd'hui le pays le plus riche du monde, dont les caisses sont pleines. C'est assez normal que la faim diminue en Chine et plus largement en Asie. Mais en Afrique, ça continue d'augmenter. On est passé de 180 millions à 230 millions. En 15-20 ans, c'est le signe que le chiffre égal de 800 millions, il faut le préciser pour essayer de rentrer plus dans la réalité des causes. Mais on peut faire le constat qu'on est loin d'un droit à l'alimentation satisfait.
Alors, on y reviendra. S'agissant de l'Afrique, c'est sans doute très important, nécessaire d'en parler, parce que, évidemment, s'agissant de l'Afrique subsaharienne en particulier, dans les sociétés européennes et occidentales en général, il y a un cliché consistant à dire que s'il y a bien un endroit du monde où on meurt de faim, où il y a un vrai problème de nutrition, c'est l'Afrique. Est-ce que les choses sont aussi simples que ça, ou est-ce que néanmoins il y a eu des évolutions. Je vous pose d'autant plus la question qu'en préparant l'émission, j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'il y a quand même quelques pays comme le Mali, le Niger, paradoxalement, la Mauritanie, le Mozambique, l'Angola, qui, d'après l'ONU, ont atteint l'objectif du millénaire, selon lequel il fallait, entre 2000 et 2015, diviser par deux le nombre de personnes malnutries. Alors, j'ai trouvé ces chiffres dans Jeune Afrique, le magazine. Est-ce que vous pensez là aussi qu'il y a la possibilité, malgré tout, de voir des évolutions un peu positives dans ce fait que l'Afrique, évidemment, est, si j'ose dire, la grande souffrance de l'humanité s'agissant de l'alimentation? Bruno Parmentier.
Alors, on va faire un peu de géopolitique, par continent. En Europe, on a eu faim pendant des millénaires. C'est pas pour rien que dans notre religion majoritaire, depuis 2000 ans, on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'était quand même une préoccupation gigantesque. Actuellement, d'après les statistiques de la fin de la FAO, en Europe, zéro. En France, zéro. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de pauvres en France, je dis pas que tout le monde mange bien. Mais attendez, là on parle du fait qu'il y a un enfant de moins de 5 ans qui meurt de faim toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes.
Bon, ça, c'est en Afrique subsaharienne?
Non, dans le monde.
Dans le monde.
Alors, donc, l'Europe a résolu le problème de la faim, grosso modo. Pas de la pauvreté, pas de l'injustice, mais au moins de la faim. Alors maintenant, on a vu, l'Asie de l'Est a pratiquement résolu le problème de la faim.
Donc, Corée, moi,
quand
Chine,
j'étais
Japon.
Jeune, mes parents me disaient, finit-on pas avec tous ces Chinois qui ont faim. Il y a encore 30 ou 40 ans, le pays de la faim dans le monde, c'était la Chine. Et d'ailleurs, Mao Tse-tung avait une idée de travers et c'était 20 millions de morts, mais c'était épouvantable. Bon, maintenant la Chine, c'est de très, très loin la plus grande puissance agricole du monde. Alors on le voit pas parce qu'eux, ils exportent pas. Ils ont 1,3 milliard de gens à nourrir. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire de dire, ils sont 1,3 milliard. Il y a plus que un peu moins de 100 millions de gens qui ont faim. Ils ont quasiment résolu le problème de la faim. Le Vietnam, par exemple, pareil, pays le plus bombardé au monde, maintenant il exporte du riz. Et on arrive à un autre phénomène géopolitique. L'Amérique latine est en train de sortir de la faim. Il reste encore, Haïti, c'est à part, de même qu'en Asie de l'Est, il reste la Corée du Nord. Et donc finalement, il y a le même nombre de gens qui ont faim, mais on les rassemble dans deux, et seulement deux, zones géopolitiques du monde. Alors, l'actualité de la faim aujourd'hui, c'est l'Inde, hein. De très, très loin, le pays où il y a le plus de gens qui ont faim dans le monde, c'est l'Inde. L'Inde, plus le Bangladesh, plus le Pakistan. La péninsule indo-pakistanaise. Comme quoi, le fait de racheter la sidérurgie des autres ou d'envoyer des fusées, ça n'empêche pas le fait qu'il y a à peu près une personne sur quatre qui a faim. Il y a 48% des enfants indiens de moins de 5 ans qui ont faim. C'est le même taux qu'au Burkina Faso. Et puis de l'autre côté, l'avenir de la faim, c'est l'Afrique subsaharienne. Parce que l'Afrique subsaharienne, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à augmenter la population. Ils sont 800 millions. En 2050, ils seront probablement 1,5 milliard et plus de 2 milliards en 2100. Et donc, c'est un endroit... En Inde, il y a toujours 200 millions de gens qui ont faim, grosso modo. Mais ça bouge pas, mais ça diminue pas. Et en Afrique, ça ne cesse d'augmenter. Alors moins que la population. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on a à la fois un enrichissement de l'Afrique, c'est-à-dire un développement des classes moyennes, etc., et à la fois un nombre incroyablement plus élevé chaque année de gens qui ont faim. Et donc, en fait, on peut s'interroger pourquoi il y a des zones du monde où on y arrive et d'autres où on n'y arrive pas.
Et alors, néanmoins, dans le cadre de ce panorama, est-ce que est-ce qu'on doit comprendre donc que du coup les distinctions qui sont faites entre différentes sous-régions de l'Afrique subsaharienne, finalement ça vous paraît des distinctions mineures par rapport au problème global que vous venez d'évoquer? On peut dire ça, François Collard-Dutilleux?
Oui, on peut dire qu'il y a un problème global, un problème qui tient au système dans lequel on vit, le système du commerce international, au système de l'agriculture, la manière dont les choses sont pensées, comment les choses sont gouvernées au plan international. Après, les effets sont différents dans un continent et dans un autre, à condition de considérer aussi qu'il y a deux sortes de situations. Il y a les situations dans lesquelles un pays ou une population qui est en situation de famine. voit sa situation améliorée et peut acquérir une autonomie alimentaire, et puis les situations dans lesquelles une population sort de la famine simplement parce qu'on lui apporte et déverse par camion ou cargo une aide alimentaire, une aide humanitaire. Et là, les personnes ne meurent plus de faim, mais on peut quand même les considérer comme en état de famine. L'ONU, la FAO a tendance à considérer, l'Europe aussi, que l'aide humanitaire, l'aide alimentaire, règle le problème de la famine. Il me semble qu'il faut être clair. La famine, c'est sortir de la famine, c'est acquérir le pouvoir d'une vie alimentaire autonome.
Donc par exemple, quand l'ONU et la FAO disent que en Afrique de l'Ouest, il y a quand même plus de progrès qu'en Afrique centrale, et que donc des pays comme, voilà, moi les chiffres que j'ai trouvés, c'est au Mali, le nombre de personnes sous-alimentées est en baisse de 50% entre 1990 et 2010. Il est en baisse de 18% au Niger, de 24% en Mauritanie, de 51% en Angola. C'est notamment parce que ces statistiques ne tiendraient pas compte de ce que vous venez d'expliquer.
Mais il y a l'aide alimentaire, oui, qui compte pour beaucoup, parce que sinon, si c'était ainsi, il n'y aurait pas 50 millions de plus au total. Et donc, il y a quelque part un bug dans les chiffres, si je puis dire. Donc, il faut regarder les choses d'un peu plus près, regarder les situations. Alors, les situations sont très différentes. Par exemple, l'Inde, on évoquait l'Inde. L'Inde, c'est un pays très intéressant parce que l'Inde est le premier grand pays qui a résisté aux pays développés pour essayer de trouver des solutions pérennes pour régler la question de la famine. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de participer à la négociation de l'Organisation mondiale du commerce à Bali et assister à cette opposition entre l'Inde et les États-Unis. L'Inde qui cherchait à constituer des stocks pour régler la famine, la question de la famine sur son territoire, et les États-Unis qui disaient qu'en faisant ça, l'Inde faussait le commerce international. Ça a duré plusieurs jours. Ça, c'est toujours pas terminé aujourd'hui. C'était en décembre 2013, c'est toujours pas terminé. Là, alors, est-ce que pour autant la question de l'Inde est meilleure ou pire? Alors, l'aide alimentaire, l'argent, permet de remplir des estomacs, mais le but, c'est pas de remplir des estomacs. Remplir des estomacs, c'est considérer que la personne est un mangeur. Lui donner plus que ça, la possibilité de se nourrir, c'est la considérer comme un mangeur consommateur. Et lui donner encore plus et avoir ce que nous avons, nous, c'est nous permettre d'être des consommateurs citoyens. Mais c'est une différence, c'est un monde entre quelqu'un dont l'estomac est simplement plein et nous qui sommes là, des consommateurs citoyens qui pouvons réfléchir sur notre propre situation alimentaire. C'est un monde.
Et alors pourquoi les dirigeants ou les représentants du gouvernement américain, dans le cadre de ces négociations à l'Organisation mondiale du commerce, n'entendent pas ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pour reprendre votre expression, François Collard-Dutilleux, n'y a-t-il pas une exception alimentaire comme il y a une exception culturelle?
Alors, c'est dans le programme LASCO, c'est l'une des propositions que nous faisons. On dirait plutôt une exception agricole qu'une exception alimentaire, parce que la famine ou les questions d'alimentation dont nous parlons sont très, très fondées sur l'apport protéinique et donc sur les céréales, sur les grandes cultures. Pas seulement, hein, mais sur... Et donc, on dirait plutôt une exception agricole. Pourquoi y a-t-il la moitié des films français dans les cinémas de France? Pourquoi est-ce que à la radio et à la télévision on passe de la musique française? Pourquoi est-ce qu'il y a des librairies avec des livres? Eh bien, c'est parce qu'il y a en effet une exception culturelle. La culture, les produits de la culture ne sont pas des marchandises ordinaires. L'alimentation, l'agriculture, ce sont des marchandises ordinaires. Et finalement, ce qui vaut pour la vie de l'esprit, pourquoi est-ce que ça ne vaudrait pas d'abord pour la vie du corps? Alors, il y a quelqu'un qui a pensé à ça au début de la guerre, dans les années 40, c'était Roosevelt, le président Roosevelt, qui avait dit, il y a trois choses, si on veut construire la paix après la guerre, il y a trois choses qu'il faut protéger. L'agriculture et l'alimentation, la nature, c'est pas une marchandise. La force de travail, c'est pas une marchandise. La monnaie, c'est pas une marchandise. Et il a organisé trois conférences internationales sur ces trois biens qui ne sont pas des marchandises. Et ensuite, alors il y en avait une qu'on connaît, tout le monde connaît, celle de Bretton Woods sur la monnaie. Mais tout le monde a oublié la conférence de Philadelphie sur le travail, la première ligne
du rapport. C'est parce qu'elle n'a pas du tout le même impact ou le même sans effet doute, que celle de Bretton Woods.
Sans doute, mais elle a la même force, normalement la même force. Et la première ligne, c'est « Le travail n'est pas une marchandise ». Et celle de Hot Springs, qu'on a aussi oublié en 1943, sur l'alimentation et l'agriculture, où il s'agissait de dire « Il faut que chaque pays ait les moyens de nourrir sa population. La nourriture, ça n'est pas une marchandise ». Et après, on a construit, grâce à Roosevelt d'ailleurs, on a construit une organisation du commerce international de l'agriculture qui permet aux pays qui sont en situation de pénurie de déroger au fameux grand principe du libre-échange et déroger à la loi de l'offre et de la demande.
Elle existe toujours, cette organisation ?
Cette organisation, elle existe toujours, le texte existe toujours. Et le texte a été signé par les 53 pays qui ont négocié, à l'unanimité. États-Unis, Russie, Chine, Europe, tout le monde a signé. Simplement, ce texte n'a jamais été ratifié. Et pourquoi il n'a jamais été ratifié ? Parce que Roosevelt étant décédé, c'était en 1948, le président était Truman, il était démocrate, confronté à un congrès républicain qui a dit « Pour le commerce, on n'a pas besoin d'une convention internationale, on sait faire ». Et donc la convention, ça s'appelle la Charte de la Havane de mars 1948, elle n'a jamais été appliquée. Vous savez ce qu'il y avait dedans ? Il faut rappeler, pour le commerce de l'agriculture et de l'alimentation, quatre objectifs. Développement économique de chaque pays, plein emploi, sécurité alimentaire et préservation des ressources naturelles. En 1948, 53 pays négociateurs, 53 signatures à la sortie de la guerre. On n'est pas dans une situation très différente. On a tous des dettes colossales publiques, des situations économiques catastrophiques pour beaucoup de pays. On est dans une situation de difficulté, avec une difficulté agricole et alimentaire, à peu près dans tous les pays, même si on ne meurt pas de faim dans tous les pays. Peut-être il est temps de redécouvrir la Charte de la Havane de mars 1948.
Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Parmentier ?
C'est-à-dire, les pays sont différents quand même, comme vous le dites, les uns des autres. Alors essayons de voir quel est le carburant de la faim. Alors le premier carburant de la faim, c'est la guerre. C'est clair, quand on fait Kalachnikov, on fait pas récolte de blé. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux. Quand on a faim, on se fait la guerre. Et quand on se fait la guerre, on a faim. Donc, les pays en guerre, on mange pas. Je veux dire, il faut se rendre compte... ça, tout le monde le comprend. Alors, la deuxième chose, c'est pas d'état.
La première cause...
Non, mais...
Enfin, disons...
Alors, une des premières causes, c'est la guerre, forcément. Alors, la deuxième, c'est l'absence d'État. Alors ça, il faut se rendre compte de ça. Pas d'État, assiette vide.
Alors, c'est où, ça ?
En fait, pas d'État, ça veut dire... Pas de sécurité de la propriété de la terre, pas de gestion de l'eau, pas de crédit, pas etc., etc. Donc les pays qui ont un état faible, en général, n'y arrivent pas. Alors le symbole absolu, c'est Haïti, par exemple. Haïti, on a beau faire du nation building, comme on dit, il n'y a pas d'état. Et donc là, c'est une véritable caricature, parce qu'on a une seule île, Hispaniola, coupée en deux. Alors d'un côté, c'est Haïti. De l'autre côté, c'est Saint-Domingue. Alors Saint-Domingue, coup d'État, etc. Mais enfin, il y a un État à Saint-Domingue. Et vu d'avion, c'est extrêmement visible. D'un côté, il y a des arbres. De l'autre côté, il n'y en a pas. Parce que pas d'État, je coupe les arbres pour me faire à manger. Mais comme il n'y a pas d'organisation, personne ne replante. Il faut se rendre compte, dans un pays tropical humide en pente, la terre nue, autant dire qu'on jette la terre dans la mer. Donc, Haïti est devenu un désert. Alors que de l'autre côté, Saint-Domingue, l'un dans l'autre, ça va. Mais la différence est absolument colossale en termes de mortalité infantile, etc. etc. Alors, autre exemple, Madagascar. Madagascar, il y a des coups d'État sans arrêt, etc. Madagascar, le nombre de gens qui ont faim est passé de 3 à 7 millions en 20 ans. Voilà. Deuxième chose, pas d'État. Troisième chose, alors là, ça a l'air très provocateur. Pour manger, faut pas avoir de pétrole, faut pas avoir de mines. Tous les pays qui ont des mines et du pétrole dans le sud, n'ayant pas d'État assez puissant, n'arrivent pas à résister aux luttes d'influence internationale, et donc finalement, on mange pas.
À la ronde, quoi.
Alors, par exemple, le cas le plus incroyable, c'est le Congo. Le Congo, il y a de tout, hein, de l'or, du diamant,
RDC,
etc.
La République démocratique du Congo.
Ex-Zaïre, etc. C'est un pays immense. Hein. Faut se rendre compte
qui est en guerre,
les agronomes disent, normalement, le Congo, c'est l'équivalent du Brésil. Ça peut nourrir
2, 3, 400 millions de personnes. 75% des gens ont faim. Ben oui, mais ils ont des mines, donc personne ne s'intéresse à l'agriculture, mais il y a énormément d'intérêts bien plus puissants que les gouvernements locaux qui s'intéressent au cuivre et au diamant. Et donc, il est en guerre en permanence et on ne mange pas. Regardez, il n'y a pas un seul pays producteur de pétrole du Sud où il fasse bon vivre. Quelle est la fatalité qui fait que l'Algérie produit moins de nourriture aujourd'hui que le jour de la décolonisation? Nous, on produit 3 fois plus de nourriture en France que dans les années 60, et eux, ils en produisent moins. Alors, un cas, par exemple, qu'on vient de voir extraordinaire, c'est la Russie. La Russie, le plus grand pays du monde.
En superficie.
En superficie. Bon. Il n'a que 130 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. En plus, ça diminue. Lui, sa population diminue. On a découvert avec ces histoires d'embargo qu'il n'est même pas capable de produire ses cochons.
Là, vous faites allusion à l'embargo de l'Union européenne sur les produits agricoles à destination
donc,
de la Russie.
Je veux dire, c'est quand même pas normal que sur le plus grand pays du monde, même s'il y a plein de terres pas cultivables, on n'arrive pas à nourrir 130 millions de personnes. Mais oui, mais quand je dirigeais une école d'agriculture, qu'on allait voir nos collègues
à Angers,
nos collègues russes, directeurs d'université agricole, ils étaient désespérés. Ils disaient, Poutine s'en fout complètement de l'agriculture. Il a dit, j'ai du gaz, j'achèterai de la nourriture. Très différent, par exemple, du pays d'à côté, qu'est l'Ukraine. Alors maintenant, ils sont en guerre, mais à ce moment-là, les universitaires ukrainiens ont dit, mais ça y est, c'est parti. On va reprendre notre vraie place, qui est une place de grand, place agricole.
Grenier à blé.
Il faut se rendre compte que dans les années 30, le cours du blé se faisait à Odessa, au débouché des grandes plaines céréalières de l'Ukraine, et non pas à Chicago. Et donc, on pourrait dire qu'on mangera au Congo quand on aura fini la dernière mine. C'est terrible. Et c'est ça qui explique. Ben, le Mali, aucune richesse. Ben, on mange mieux que chez les voisins. Parce que ben, finalement, il y a quand même un peu moins de guerre. Cuba, on mange mieux qu'au Venezuela. Pourtant, il n'y a pas de pétrole. Et il y a eu l'embargo.
Parlons du Niger un instant. Écoutons un son qui nous vient, en l'occurrence, de TF1 sur les problèmes de la faim. C'était en 2010 au Niger, justement le Niger qui est tout à côté du Mali, mais qui lui est réputé pour ses mines, en particulier d'uranium.
Il vient d'arriver à l'hôpital de Madarounfa. Sa mère n'avait plus de lait pour le nourrir. Couché sur des lits tout autour des enfants malades, malnutris. Ce médecin ne sait pas s'il pourra tous les sauver. Ismaël a 11 mois, il ne bouge même plus.
Elle a l'air comme en train de somnoler. Vous avez l'impression même qu'il est parti. De premier coup d'œil, vous avez l'impression que l'enfant, est-ce qu'il est vivant? Peut-être obligé peut-être de donner voir.
Les enfants sont les premières victimes de la pénurie alimentaire aiguë qui frappe le Niger depuis 3 mois. Le long de la route, il n'y a que sable et terre craquelée. Dans cette région du sud, la pluie ne vient plus. Les greniers sont vides. Dans les champs, les hommes s'évertuent à faire pousser des graines de mil. C'est l'aliment de base ici.
Regardez cette plante, elle ne grandit pas. Il n'y a pas assez de pluie, le sol est trop sec. La récolte ne sera pas bonne.
Dans ce village, les habitants attendent la distribution de céréales depuis des semaines maintenant. Au Niger, plus de la moitié de la population serait touchée par cette pénurie alimentaire.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Illustration donc avec le cas du Niger, c'était en 2010. Aujourd'hui, la situation est, je crois, Bruno Parmentier, meilleure qu'elle ne l'était en 2010. Est-ce qu'on peut maintenant essayer, si vous le voulez bien, tous les deux, d'envisager les solutions auxquelles vous pensez? Puisque vous dites, l'un et l'autre, que cette situation de faim dans le monde peut être résolue. Alors, François Collard du Tilleul, dans un de vos articles, vous écrivez « Le droit ne peut pas tout, mais pas de solution sans lui ». Et avec ce programme LASCO, que vous allez peut-être nous présenter très rapidement, parce que c'est une initiative qui est vraiment très intéressante et qui mérite d'être saluée. Vous en avez déjà parlé à France Culture, je crois, il y a un an ou deux, mais c'est une bonne occasion de le refaire, si vous le voulez bien. Vous envisagez, avec votre réseau de chercheurs, des propositions de modèles juridiques propres à assurer ce que vous appelez la sécurité alimentaire dans le monde, ou le droit comme instrument de sécurité alimentaire. Alors c'est vrai que c'est une idée moi, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même une idée assez neuve, cette idée que le droit peut, d'une certaine manière, garantir la sécurité alimentaire dans le monde.
François Collard, en réalité, le problème, c'est que pour l'instant, le droit ne la garantit pas. Et c'est le premier constat qu'il faut faire. Que les choses sont comme elles sont parce que le droit laisse faire, le droit permet ou le droit regarde ailleurs. Et donc, il y a un travail de diagnostic à faire. Qu'est-ce qui fait que les règles sont telles que ça conduit à ça? Bruno Parmentier disait, il n'y a pas d'État où les États sont faibles. Qu'est-ce qui fait que les États sont faibles? Comment est-ce que ça c'est possible, permis? Il y a des raisons à ça. Il y a des raisons en droit, et en particulier en droit international.
Mais surtout, alors les États faibles, on suppose qu'ils ne vont pas être réglés ou renforcés uniquement par le droit. Est-ce que ça veut dire que dans vos pistes de recherche, il y a l'idée que finalement, on pourrait avoir, j'appelle ça, faute de mieux, un droit international qui justement permettrait, donnerait une base juridique à la sécurité alimentaire, même là où les États sont faibles?
Oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y a des règles déjà qui existent. Pourquoi est-ce que mon droit de propriété sur ma maison, mon appartement, est très protégé? C'est un droit de l'homme. Et le droit à l'alimentation d'un Malien ou d'un autre Africain, c'est un droit de l'homme aussi, et lui ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des droits de l'homme pleins et des droits de l'homme vides? Ce qui fait qu'il y a des assiettes pleines et des assiettes vides. Là, il y a un problème sur lequel les juristes doivent réfléchir. C'est qu'en fait, les juristes, ou le droit, pas les juristes ne sont pas en cause, mais le droit, il est pensé pour que le système fonctionne. Et le système, il a en son cœur une loi qui n'est pas la loi qui nous fait vivre. La loi d'ajustement de l'offre et de la demande, c'est celle qui est le moteur de tout, n'est pas la loi qui nous fait vivre.
C'est une loi économique.
C'est une loi économique. Mais il y a une autre loi économique qui, elle, nous fait vivre. Vous, tous ceux qui nous écoutent, toutes les entreprises, c'est ce que j'appelle la loi d'ajustement des ressources et des besoins. J'ai des revenus, j'ai des besoins, j'ajuste mes ressources et mes besoins. J'ajuste pas une offre et une demande. J'ajuste, dans ma vie, des ressources et des besoins. Une entreprise le fait avec l'argent, elle le fait avec les personnes. Elle embauche, elle licencie, elle ajuste ses ressources et ses besoins. Les États, les communautés internationales et même la COP21 essaient d'ajuster l'exploitation des ressources naturelles avec les besoins. C'est pas l'offre et la demande, c'est une deuxième loi à côté de cette première qui est une loi de la vie. On a construit tout un monde du droit à partir de la loi de l'offre et de la demande. On a oublié de construire un monde du droit à partir de cette autre loi qui est la loi d'ajustement des ressources et des besoins sur laquelle précisément le programme LASCO essaie de travailler.
Bruno Parmentier.
Oui, c'est vrai que le droit n'est pas adapté à cette situation. En fait, pour pouvoir manger, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut produire suffisamment de nourriture, premièrement.
Alors ça, c'est déjà le cas à l'échelle du monde, en tout cas.
Mais la deuxième, c'est qu'il faut produire partout. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Puis le troisième, c'est qu'il faut que les consommateurs aient accès à cette nourriture, c'est-à-dire à la fois un accès physique et un accès financier. Et donc, quand on rassemble toutes ces conditions, ça devient très compliqué, parce qu'il y a à la fois des problèmes agronomiques, mais ensuite, il y a des problèmes de commerce international, et ensuite, il y a des problèmes de politique sociale. C'est au bout de tout ça qu'on peut arriver à manger. Alors, on peut les prendre les uns derrière les autres. C'est vrai que les problèmes agronomiques, je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler.
Parlons-en, c'est si, au contraire,
c'est compliqué parce que
les rendements ont énormément augmenté.
Les rendements ont énormément augmenté.
Et depuis 10 ans, si je parle sous votre contrôle, bien sûr, ils plafonnent, quoi, pour dire les choses rapidement.
Grosso modo, il faut arriver à augmenter encore la production mondiale de 70% dans les 30 ou 40 prochaines années. À moitié à cause de l'augmentation de la population,
pendant les 50 années précédentes.
Puisqu'on va avoir 2,5 milliards de gens de plus. Et à moitié, parce qu'il y a de plus en plus de classes moyennes, des gens qui ne mangeaient que des végétaux et qui se mettent à manger des animaux, de la viande, du lait et des œufs.
Ça vous paraît irréversible?
Or, oui.
Il n'y a pas moyen de faire que...
C'est-à-dire, non.
On mange moins de viande?
Je pense que chez nous, où on en mange trop, on va en manger moins. La crise de l'élevage, qu'on est en train de voir globale en Europe,
on est beaucoup moins nombreux
ça vient du fait qu'on a cessé de manger plus de viande et plus de lait
Par exemple, en France, dans les années 20, c'était 25 kilos par tête de pipe et par an. Dans les années 50, c'était 45 kilos. Aujourd'hui, c'est 85 kilos de viande et 90 kilos de lait.
C'est énorme.
Et on arrive au maximum. C'est-à-dire, la courbe commence à décroître parce qu'on commence à s'apercevoir que c'est mauvais pour la planète et c'est mauvais pour la santé. C'est trop. Et donc, les journaux, c'est, bah, si on mange trop de viande, il y a le cancer, il y a l'obésité, l'artérosclérose, etc., etc. Donc, on va revenir à des choses plus tranquilles.
Mais une fois par semaine.
Mais dans le même temps. Alors bon, voilà, un peu. Surtout, c'est pas tellement moins souvent, c'est des portions plus petites. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de manger un beefsteak de 180 grammes. Un beefsteak de 90, ça suffit. Mais du coup, il risque de se passer chez nous, pour la viande et le lait, ce qui s'est passé pour le vin. Parce qu'il y a 50 ans, on mangeait deux fois moins de viande, mais on buvait trois fois plus de vin. C'était 140 litres de vin par tête de pipe. Aujourd'hui, c'est 40 litres. Mais il y a encore des viticulteurs, sauf qu'on fait que de la qualité, qui est vendue à peu près cher. En France, il n'y a plus de piquettes, il n'y a plus que du bon et du très bon vin. Donc, il est probable qu'en Europe, dans les années 2050, on mangera beaucoup moins de lait, beaucoup moins de viande, mais j'espère qu'on le paiera bien, de la viande de qualité, pour que les éleveurs puissent vivre. Et donc là, il y a une transformation énorme. Mais de l'autre côté, en Chine, du temps de Mao Tse-tung, ils étaient que 700 millions, comme disait la chanson. À ce moment-là, ils ne mangeaient que 14 kilos de viande. Maintenant, ils sont 1,3 milliard. Ils mangent 65 kilos de viande. C'est-à-dire
par habitant, hein,
oui.
Et par an.
Alors, c'est moins que nous, 85, mais enfin, ça commence à devenir sérieux. Autrement dit, quand on y réfléchit, en 30 ans, la consommation de viande de la Chine a été multipliée par 8. Mais c'est une ponction absolument gigantesque, gigantesque, sur les ressources mondiales. Parce que là, il faut revenir dans une petite technique. Les animaux mangent comme nous, hein. Le poulet, il mange exactement comme nous. C'est pas la même cuisine, mais les ingrédients, c'est la même chose, hein. C'est du maïs, du soja, du colza du riz éventuellement et du blé. Voilà. Et il faut se rendre compte qu'actuellement, la moitié de la production mondiale de céréales, c'est pour nourrir les animaux et non plus pour nourrir les hommes. Et en particulier, 80% du maïs et 80% du soja. Et donc, c'est vrai qu'il faut augmenter parce que on ne peut pas refuser aux Africains la politique du bon roi Henri IV. Manger un poulet le dimanche. Voilà, quand ils mangent jamais. Alors, j'espère que ceux qui en mangent trop vont diminuer assez vite pour que ceux qui en mangent jamais puissent en manger une fois par semaine. Mais ça va se faire. Donc, il faut augmenter de 70%. Dans les 40 ans, quand on regarde en arrière, on a augmenté la production mondiale de beaucoup plus que 70%. Donc, d'un côté...
Donc, ça vous paraît faisable.
C'est faisable. Et d'un autre côté, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, la révolution verte, ça a consisté à dire « Je prélève énormément de ressources non renouvelables sur la planète pour nous faire beaucoup à manger. » C'est toujours plus de ressources pour produire pas toujours mieux et toujours plus de nourriture.
La révolution verte, aujourd'hui, dans les années 60,
c'est ça.
Les intrants de type pesticides.
Voilà, les engrais, les pesticides, variétés. Les semences, l'irrigation, etc. Toujours plus de terre, toujours plus d'eau, toujours plus d'énergie, non. Toujours plus de chimie, toujours plus de tracteurs.
Intensification de l'agriculture.
Et maintenant, c'est moins. Alors d'abord, il y a des zones du monde où ça n'a pas pris, et notamment, globalement, ça n'a pas pris en Afrique. Et donc, c'est à cause de problèmes économiques et sociaux, pas à cause de problèmes techniques. Donc d'un côté, on peut voir ça bien, il y a d'énormes réserves de productivité agricole en Afrique, mais d'un autre côté, on n'est jamais arrivé à mobiliser quelque part l'agriculture en Afrique. Mais surtout,
il y a peut-être pas assez
d'eau, ce qui
plus.
Est important, c'est que maintenant, on arrive au bout des ressources non renouvelables. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'il faut faire 70% de plus, mais cette fois-ci avec moins. Moins de terre, moins d'eau, moins d'énergie, moins de chimie, pratiquement plus de tracteurs. Et donc, c'est une nouvelle révolution agricole qu'il faut. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est la révolution de la chimie, de l'énergie.
Hein.
C'est une agriculture intensive en chimie. Et maintenant, il faut faire une agriculture intensive en écologie. Une agriculture écologiquement intensive. Et donc ça, c'est un changement absolument considérable. Et le but dans nos pays où la productivité est bonne, c'est de produire autant, mais avec beaucoup moins. Alors, on se dispute sur les pesticides, mais il faudra produire avec 2 fois, 4 fois, 8 fois moins de pesticides. Et d'engrais. Et dans les pays tropicaux, notamment africains, où la productivité est faible, là les forces de la nature sont très fortes, là c'est possible de tripler la production agricole en Afrique, c'est ça qu'il faudrait, hein, tripler la production agricole en Afrique, par des méthodes agroécologiques. Mais c'est une véritable mobilisation mondiale totale d'y arriver. Or, on ne prend pas, absolument pas le chemin.
On va détailler ce point. François Collard-Dutilleul, vous vouliez...
Oui, simplement pour dissocier les deux problèmes. Une question est de savoir comment on peut faire pour nourrir 10 milliards de personnes en 2050. C'est la question à laquelle vient de répondre Bruno Parmentier. Est-ce que maintenant, si on peut produire plus, mieux, différemment, manger moins de viande, préserver les ressources, ça va remplir les assiettes vides? La réponse est non. Catégoriquement non. Parce que les marchandises, quelle que soit la quantité produite, elles ne vont pas là où on en a besoin, elles vont là où il y a de l'argent pour les acheter. Et donc le problème, c'est il y a un problème qui est produire davantage pour une population qui grandit sans cesse, mais ça ne règle en rien la question première qui est celle des assiettes vides. Il faut regarder ailleurs pour la question des assiettes vides. Donc je voulais simplement redissocier ces deux questions qui appellent des réponses à la fois agronomiques, mais aussi juridiques ou économiques différentes.
Et sur ce point précis, des réponses juridiques, ça serait quoi?
Bien sûr, les assiettes vides.
Oui.
La question des assiettes vides, c'est une question qui commence avec la terre et l'eau. 75%, grosso modo, 70-75% des personnes qui sont en situation de famine sont des ruraux, pas des urbains.
Des paysans.
Des paysans, c'est quand même paradoxal.
C'est toujours un très grand paradoxe. Hein,
c'est incompréhensible.
Il faut chaque fois leur dire dans toutes les émissions sur l'agriculture.
C'est un paradoxe.
Pourquoi c'est d'abord les paysans qui sont les plus touchés
par
la malnutrition?
D'abord parce que les paysans n'ont pas, dans les pays de famine, les paysans n'ont pas de sécurité sur la terre qu'ils occupent depuis des générations et des générations. Il y a plusieurs raisons à cela. Et l'une des raisons, c'est que dans les pays que nous avons colonisés, mais c'est vrai aussi pour d'autres, dans les pays que nous avons colonisés, nous sommes venus avec notre système de droit foncier qu'on appelle moderne et qui heurte le système coutumier qu'on trouvait en Afrique. Et donc en Afrique, un paysan qui occupe une terre depuis des générations et des générations, il est là avec la terre de ses ancêtres, c'est sa terre. Et nous arrivons en disant non, celui dont c'est la terre, c'est celui qui a un papier sur lequel il y a la description de la terre avec son nom. Alors, beaucoup de pays ont fait ça, un système pour donner des titres aux personnes. Mais simplement, pour avoir un titre, il faut savoir lire, savoir où est le bureau pour retrouver le formulaire, où le reporter, pouvoir payer la taxe, savoir comment il faut faire. Et donc, ce sont pas ceux qui en ont besoin, les paysans, qui deviennent sécurisés sur leur terre. Donc après, ils voient arriver des gens qui n'ont rien à faire là, mais qui leur prennent la terre pour la cultiver, mais pour beaucoup, en tout cas dans les pays d'Afrique, pour l'exportation. Donc on a là des expériences à Madagascar. Madagascar, c'est 2015, première loi pour privatiser les terres qui étaient sans propriétaire, les terres qui n'appartenaient à personne. 2016, deuxième loi complémentaire pour privatiser des terres qui étaient à l'État. 2017, loi qui ouvre le marché de la terre aux étrangers. 2018, révolution. Fin 2018, guerre civile. Voilà. Non, là, on a un exemple.
2006-2007-2018, pas 2017-2018.
Oui, 2006-2007-2018. Oui, pardon.
Voilà,
pardon.
Rectifier. Il y a 10 ans.
Et une guerre civile et le président qui est amené à s'exiler. Alors, là, on a un exemple typique. Contre-exemple, 2013, le Bénin, qui vient d'élire son nouveau président. C'est aujourd'hui qu'on va connaître le nouveau gouvernement du Bénin et donc la nouvelle politique peut-être du Bénin. Nous, avec le programme LASCO, nous avons participé à cette aventure, la rédaction du code foncier, du nouveau code foncier au Bénin en 2013. D'abord, confusion totale entre l'occupation coutumière d'une terre par des générations de paysans et l'obtention d'un titre d'occupation inviolable. Ça, c'est déjà une révolution. Le paysan, il est là.
Donc ça, maintenant, c'est le cas au Bénin.
C'est le cas au Bénin. Ce paysan, il peut se faire inscrire et reconnaître dans son village, pas à la capitale, pas en remplissant des formulaires, dans son village. Égalité de l'homme et la femme. Si l'homme se fait reconnaître la terre, alors il la partage avec la femme. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays dans lesquels la terre appartient aux hommes, ce sont les femmes qui cultivent. Et interdiction pour les étrangers d'acquérir la terre agricole du Bénin. Obligation, quand on a de la terre agricole, de l'exploiter. Sinon, on peut en être exproprié et les confier à quelqu'un d'autre. Le Bénin n'est pas le paradis. Ce système n'est pas le paradis. Mais là, on a un premier exemple. On a travaillé sur cette question avec le syndicat des agriculteurs du Bénin. On a un premier exemple de quelque chose. C'est le bout d'une pelote.
Ça vous paraît un signal faible de quelque chose qui est une évolution en cours et qui va déployer ses effets, ou ça vous paraît un cas exceptionnel?
C'est un signal fort à effet faible pour l'instant, mais le Sénégal est en train de réformer son droit foncier. La Côte d'Ivoire réfléchit. Le Mali aurait bien des choses à faire avec son code foncier, parce qu'on disait que la situation s'améliorait au Mali. C'est dans des conditions juridiques qui sont plutôt contestables, au regard de l'agriculture et de l'alimentation. Mais le Bénin est au moins un exemple. Le Mozambique, le couloir de Nacala, 14,5 millions de personnes, 14,5 millions de paysans, avec une loi 2007 qui accorde la terre aux paysans, mais la loi accorde la terre aux communautés villageoises. Et donc là, il y a un collectif. Et ça sécurise les personnes sur la terre. Le problème du Mozambique, il est ailleurs, c'est qu'il y a le Brésil et le Japon qui, au lieu de mettre la main sur la terre, comme certaines sociétés ou pays étrangers le font par ce phénomène d'accaparement des terres, le Brésil et le Japon mettent la main sur la politique agricole du Mozambique, c'est plus efficace. Mais donc, oui, la question foncière est la question première. Un paysan qui a une terre, qui est sécurisé sur sa terre, c'est parents vivaient là, ses grands-parents vivaient là, et donc il doit pouvoir vivre là.
Et comment expliquer, Bruno Parmentier, que cette question foncière qui vient d'être évoquée par François Collard du Tilleul ait été, sauf erreur de ma part, tellement absente des grandes politiques publiques internationales promues par le FMI, la Banque mondiale, voire par la FAO, et que c'est seulement depuis quelques années que ces grandes institutions internationales ont l'air de redécouvrir l'importance des cultures vivrières et de faire leur mea culpa sur les impulsions qu'elles ont données pour le développement des agricultures dites d'exportation. Est-ce que ça, c'est une des clés pour résoudre la faim dans le monde dans les années qui viennent?
Il faut se rendre compte que depuis 30 ans, l'agriculture n'était plus à la mode. Toutes ces institutions internationales, ils disaient c'est un pays moderne, ça doit avoir de l'industrie, et puis les services, c'est génial. Mais les agriculteurs, c'est ringard, ça parle pas la langue dominante, etc., etc. Donc, c'est pas eux qui vont être les moteurs du développement.
Même en Inde.
Même en Inde, on va dire. Bah oui, les gouvernements indiens, ils voulaient de la sidérurgie, ils voulaient des fusées, ils voulaient, etc., beaucoup. Mais c'est aussi culturel. Vous savez, des fils de petits paysans qui sont présidents de la République, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le monde. Culturellement, c'est des gens qui sont copains des financiers, des ingénieurs, des multinationales. Et puis de l'autre côté, ben, la priorité c'était de dire, ben, il y a des grandes villes, il faut nourrir les grandes villes. Donc le commerce international, c'est pas mal. Et donc ben, on va soutenir les multinationales. Et les multinationales, c'est des gens qui savent produire avec peu de main-d'œuvre, beaucoup de nourriture pour la vendre à des classes moyennes, des pays riches. Mais enfin, c'est pas des institutions de bienfaisance. Ils sont pas là pour donner la nourriture. En plus, à des gens qui sont tout au bout du chemin, il faut des camions pas possibles dans la boue, etc. Le transport coûte plus cher. Donc évidemment que c'est pas leur boulot. Et donc, plus on a industrialisé, entre guillemets, à la fois la production et le transport et la commercialisation, plus on a marginalisé ceux qui n'en étaient pas. Et on arrive à cette chose extraordinaire. On mange dans les grandes villes du monde, mais on a faim dans les campagnes isolées du monde. Et la faim dans le monde, c'est d'abord un phénomène silencieux des campagnes marginalisées.
Et alors, puis, outre la sécurisation juridique dont on apprend qu'elle commence à faire son chemin, est-ce que vous voyez, vous, Bruno
Parmentier? Ben oui, il y a ensuite, quelque part, c'est les effets épouvantable du commerce international. Allez, parlons du Sénégal. Pour un dirigeant sénégalais, c'est plus important de faire un port que de faire une politique agricole. Allez, je fais un port à Dakar. Et puis jusqu'à 2007, il y avait trop de nourriture dans le monde. Donc il y avait toujours
des cargos de brisures de riz de Thaïlande qui arrivaient avec du riz pas cher, puis du blé français subventionné en trop qui arrivait, puis du maïs américain. Top parenthèse, aider les gens des pays tropicaux à changer de nourriture et à manger du pain, c'est-à-dire du blé, c'est-à-dire les choses qui poussent mal là-bas, c'est des méthodes de dealers de drogue, hein, qui, quelque part,
rend dépendant
d'une culture d'ailleurs. Bon. Et donc, en 2007, il y a un coup d'arrêt, tout d'un coup, à ça, parce qu'on découvre que ça y est, on ne produit plus assez de céréales dans le monde, notamment à cause de la fringale extraordinaire de tous ces animaux. Et en 2007, ça y est, les stocks mondiaux de céréales sont très bas, et émeute de la faim. Alors, émeute de la faim à Dakar, comme partout ailleurs. Et donc, au lieu de se dire, ben, je vais faire de l'agriculture, il faudrait quand même que les Sénégalais mangent de la nourriture sénégalaise. Mais en fait, c'est long et compliqué, ça, d'investir dans l'agriculture. C'est tellement plus simple d'agrandir le port, etc.
Olivier Pastret, l'un des économistes de France Culture, oui, pour dire les choses rapidement, dit exactement comme vous. Il dit, la meilleure des choses à faire, c'est investir dans l'agriculture, et il y a plein de façons, voilà, de le faire.
Et donc, ouvrir le commerce international, comme on l'a dit, retirer l'organisation de l'agriculture à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, pour le donner à l'OMC, sous prétexte que l'OMC est efficace, ben ça crée du bidonville. Mais pourquoi au fait, il y a plein de gens qui vont dans les bidonvilles. Ben, on y mange un peu, alors qu'on crève de faim à la campagne. Pourtant c'est sordide. Mais la nouveauté depuis 2007, c'est que de temps en temps, même dans le bidonville, on peut plus manger, parce que, tout d'un coup, le prix des céréales est multiplié par 2 ou par 3, parce qu'on n'en a plus assez, parce que les céréales, maintenant, elles servent à nourrir les animaux plutôt qu'à nourrir les hommes.
Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on fait pas de stock et qu'il n'y a pas une espèce de, d'organisation mondiale,
oui,
du stock?
Globalement, faut se rendre compte que depuis l'an 2000, les années déficitaires en céréales dans le monde sont plus nombreuses que les années excédentaires. Alors, comme on avait plein de stocks en l'an 2000, il a fallu attendre 2007 pour que les stocks soient très bas et qu'on voit les premières émeutes de la faim. Mais ensuite, il faut se rendre compte que la géopolitique mondiale, maintenant, dépend énormément du moindre incident climatique dans les zones céréalières. Hein, par exemple, 2010, il y a eu énorme sécheresse en Russie, énorme sécheresse en Australie, inondation au Pakistan. De nouveau, le prix des céréales a flambé. Eh bien, révolution arabe. Voilà. Ben oui, parce que...
C'est un facteur, c'est pas le...
Non, c'est un facteur, c'est le pas... facteur, c'est voilà, un facteur déclenchant.
C'est pas le seul.
La Tunisie importe la majorité de sa nourriture quand le prix du blé triple. Ils aiment pas ça, les Tunisiens.
Alors,
les Égyptiens, n'en parlons pas. Les Égyptiens, ils sont 83 millions alors que les Tunisiens sont 22. En Tunisie, si le nouveau gouvernement issu de la révolution prévoit un petit dilemme, enfin, s'il choisit de faire agriculture, il est encore possible que les Tunisiens mangent de la nourriture tunisienne. En Égypte, c'est radicalement impossible. Ils sont 84 millions, il n'y a que 4% de terres cultivables. L'Égypte, c'est un désert traversé d'une rivière. Ils sont d'ailleurs plutôt bons en agriculture dans la vallée du Nil, mais ne pourra jamais se nourrir tout seul. Donc, il y a des pays qui ne pourront plus jamais se nourrir tout seul, et là, il y a un vrai problème. Et par exemple, il y a un problème de solidarité autour de la Méditerranée. Je veux dire, on n'a pas vocation à nourrir le monde. Mais on peut observer qu'avec la politique agricole commune, on vit en paix en Europe, alors qu'on se faisait la guerre tout le temps. Maintenant, si on vivre en paix autour de la Méditerranée, c'est quand même pas mal qu'on fasse un peu de rab dans le nord de la Méditerranée.
Attention,
pour nourrir.
Vous êtes en train de suggérer que l'Europe marche tellement bien qu'il faut l'élargir
non,
à la rive sud de la Méditerranée.
Je dis, on n'a pas vocation.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
On n'a pas vocation, comme on a dit au moment de la décolonisation, on va nourrir les gens qui ont faim. Enfin, c'est absurde. Les gens qui ont faim, c'est des paysans pauvres isolés dans le tiers-monde. De temps en temps, il y a des journaux brésiliens qui m'appellent, Monsieur Parmentier, pourquoi vous qui avez de l'influence, pourquoi vous dites pas à la radio, arrêtez de faire de l'agriculture, vous êtes ringard en Europe, on s'occupe de tous les Brésiliens. Mais moi, je leur dis, attendez, vous êtes combien déjà les Brésiliens? Vous êtes 240 millions. Bon, ben d'accord, je vais vous donner une bonne idée. Si vous nourrissiez tous les Brésiliens, ce serait déjà une première chose. Mais même si vous avez du rab, attendez, ils sont 800 millions, les gens qui ont faim. Donc j'enregistre que vous allez nourrir 240 millions plus 800 millions. C'est-à-dire transporter des centaines de milliers de tonnes de produits périssables pour les envoyer au fin fond de Burkina Faso, là où ça coûte très cher parce qu'il n'y a pas de route. Tout ça pour les vendre à des gens qui n'ont pas un radis pour nous les acheter. Mais attendez, évidemment que non. Les Burkinabés ne pourront jamais manger que de la nourriture de Burkina Faso. Alors, les Algériens pensent que tant qu'il y a du gaz, ils pourront acheter du blé, mais ça ne durera pas éternellement.
Ça ne durera pas éternellement.
Mais, en tous les cas, ceux qui n'ont pas de gaz et pas de mine, là, il n'y a même pas ça. Il faut qu'ils mangent chez eux. Et donc, si le commerce international amène en permanence de la nourriture à des prix en dumping, subventionné, puis surtout parce que notre productivité est tellement meilleure.
Les subventions agricoles 400
fois meilleure notre productivité.
Sont supérieures à l'aide au développement.
Chaque fois qu'un bateau de blé rentre dans le port de Dakar, c'est 50 ou 500 paysans sénégalais qui sont ruinés, qui rentrent dans le bidonville.
Donc en gros, c'est retour au protectionnisme agricole, une organisation mondiale de l'agriculture.
Pas retour au protectionnisme, non. Non, pas retour au protectionnisme. Mais d'abord le constat que l'Organisation mondiale du commerce est indépendante de l'ONU. Les droits de l'homme sont à l'ONU. Le droit du commerce est à l'OMC. L'OMC n'a pas à respecter les droits de l'homme. Ça, c'est déjà un gap terrible, un fossé terrible. La deuxième chose, c'est que la logique de l'OMC, c'est la circulation des marchandises, surtout pas le stock. Le stock, c'est l'anti-idéologie de l'OMC. Et donc, il n'y a aucune chance qu'avec l'OMC, on puisse raisonner à partir des stocks.
Non, mais on pourrait décider qu'on ajoute une organisation mondiale des stocks agricoles à côté de l'OMC.
Et on arrive alors à cette question que il n'y a pas la gouvernance internationale dont on a besoin pour contrebalancer l'OMC, parce que la FAO n'a aucun pouvoir de contrainte. Ce sont là des aspects. Le commerce, c'est pas simplement le foncier et le commerce. Il y a bien d'autres aspects qui ont une influence sur la famine. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui est absolument essentiel.
Mais alors, vous êtes juriste. Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui donnent matière à espérer qu'on puisse aller vers ça?
Moi, je suis, oui, plutôt optimiste de nature. Et je crois qu'il faut agir. En tout cas, il faut prendre la question en tenaille. Il faut prendre la question en réfléchissant au plan international. Mais aussi, il faut réfléchir au plan local. Si je mange différemment, si j'ai dans mon assiette une pizza et qu'on me dit que cette pizza, la pâte de la pizza est faite avec du blé qui a poussé dans un pays d'Afrique où il y a de la famine, si on me dit ça, alors je peux avoir un réflexe, un premier réflexe. L'information du consommateur citoyen, que le consommateur mangeur devienne consommateur citoyen. Pour ça, il faut l'informer et pas simplement l'informer sur le prix ou sur la composition nutritionnelle de ce qu'il mange. Il faut lui donner des informations environnementales, des informations sociales. Il faut lui donner les informations dont il a besoin pour faire des choix qui vont peser. Agir par en haut, agir par en bas. Bon, nous, on travaille sur ces questions et on peut plutôt, oui, avoir des voix, penser des voix en étant optimiste.
On doit en rester là, mais je vois bien que l'un et l'autre, Bruno Parmentier, François Collard du Tilleul, vous avez encore beaucoup de choses à dire, donc j'espère, si vous en êtes d'accord, que nous pourrons refaire une émission, peut-être pas avant l'été, mais en tous les cas, si c'est possible, lors d'une prochaine saison. Merci en tous les cas à tous les deux, Bruno Parmentier et François Collard du Tilleul, pour vos précieux éclairages. Les liens vers vos publications, dont Fin Zéro, votre dernier livre, Bruno Parmentier, et vers vos sites web, nourrirmanger.fr, d'une part, et s'agissant du programme LASCO, lasco.hypothèse.org, sont sur le site web de France Culture, à la page de Planète Terre. C'était donc où en est la faim dans le monde aujourd'hui. Alors demain, jeudi à 16h dans Culture Science, n'oubliez pas la marche des sciences. Aurélie Luneau fera le portrait de Émile Duclos, le lieutenant de Pasteur. Cette émission, bien sûr, vous pouvez la podcaster durant un an, l'écouter pendant 1000 jours, et je remercie chaleureusement, comme chaque mercredi, Luc-Jean Reynaud, Jacques Hubert, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France qui nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de l'émission.